Pour profiter pleinement de la visite, veuillez suivre ces indications. Après avoir lancé la lecture, il est important de ne pas l'interrompre jusqu'à la fin. Respectez l'itinéraire décrit afin de ne pas perdre le fil de la narration. Faites seulement les arrêts indiqués expressément dans l'enregistrement et, surtout, marchez à pas lents et à un rythme constant. Le lien étroit et profondément ancré qui unit Foss et la mer est palpable non seulement dans les monuments et la physionomie de la bourgade, mais également dans les échos de ces villes lointaines qui l'ont habité et lui ont donné sa couleur locale. Cette promenade, qui longe le littoral de Foss, vous fera découvrir la difficile configuration du port et de l'entrée de la Ria et comprendre l'importance de la plage et des activités liées à la mer. Elle s'attachera également à évoquer l'époque révolue où les anciens quartiers de pêcheurs grouillaient de vie.
Bonjour, je m'appelle Rosa et je vais être votre guide dans cette visite à la découverte des racines maritimes de Foss. Je n'y suis pas née, mais ma famille y passe tous ses étés depuis 3 générations et je m'y sens comme chez moi. Mes parents sont venus pour la première fois en 1964. Et autant que je me souvienne, j'ai passé tous mes étés à Foss. Nous allons commencer par nous positionner devant la porte du Cenima, le centre d'interprétation de la Marina Lucense, dos à la façade. Maintenant, traversons la rue avec prudence. Une fois arrivés de l'autre côté, nous nous dirigerons vers la gauche et nous longerons la pelouse jusqu'à la sculpture que l'on voit un peu plus loin, à gauche. Nous nous y arrêterons. Notre promenade débutera au pied de la statue. La sculpture est un hommage à une habitante de Foss. Allez, c'est parti!
Algún día era Ribeira, o sitio para descargar. Algún día era Ribeira, o sitio para descargar.
Certains jours, c'était le rivage, l'endroit pour décharger les sardines que ramenaient les canots grâce aux appâts. Pour décharger le poisson, elle devait entrer dans la mer, mouiller jusqu'à la ceinture et nu-pied. Jusqu'à pas d'heure la nuit, dès que le soleil se couchait, les vendeuses étaient-elles à sardine. Pour préparer le poisson, elles étendaient sur le sable des nappes faites de sacs qu'elles avaient à cet effet. Comme il n'y avait pas de lumière pour pouvoir travailler, elles plantaient dans le sable un bâton et là une pointe à gaz. Je suppose que vous serez arrivé devant la sculpture. À Foss, tout le monde la connaît sous le nom d'Ashika, parce que son auteur s'est inspiré de la photo d'une vendeuse de poissons très populaire dans le village, que l'on surnommait Ashika. En fait, elle s'appelait Shulia, mais ici, tout le monde a un surnom. Certains sont attribués par mépris, d'autres sont plutôt inévitables, pour se distinguer. Moi, si je devais en choisir un, ce serait Rosa da Faneca, car Faneca est mon personnage préféré de Foss. Inventé par Chaussée de Socorro, il va d'ailleurs nous servir de guide pour évoquer la mémoire maritime de Foss. Mais revenons à la sculpture. Un jour, qu'Ashika marchait sur le sable avec ses claquettes et sa bourriche sur la tête, elle fut prise en photo par Juan José, un photographe qui passait l'été dans le village. C'est ainsi qu'elle fut immortalisée. Faneca disait qu'à Foss, il y avait 3 sortes de vendeuses, selon le mode de transport du poisson. Les marchandes de la ligne, celles à dos d'âne et celles portant la bourriche sur la tête. Les premières montaient dans les voitures de Chus et de José María et vendaient sur la place Lugo. les marchands d'Adodan vendaient leurs poissons à Mondoniedo. Et celles qui portaient les bourriches sur la tête n'avaient ni voiture ni âne et se rendaient jusqu'à Fasouro ou Villaronte. Certaines vendeuses préféraient aller en barque jusqu'à la zone de Saint-Cosmé et d'autres empruntaient la voie ferrée. Car pendant 30 ans, la voie ferrée fut installée, mais aucun train ne passait par là. À présent, nous allons poursuivre la visite. Nous devons continuer tout droit jusqu'à atteindre ce trottoir pavé qui longe le bord de mer. Nous ferons là-bas une autre halte. Le terrain où nous nous trouvons a été gagné à la mer. C'est un remblai effectué dans les années 70. Autrefois, le rivage arrivait jusqu'ici et sans ces travaux, nos pieds fouleraient maintenant le sable. Les canots venaient jusqu'à la plage pour débarquer le poisson et les femmes le préparaient avant de le vendre dans les environs. Si vous êtes déjà sur la promenade, nous allons nous arrêter un instant car cet endroit nous offre une vue complète de l'intérieur de la ria et nous permet de nous situer. À votre gauche, vous verrez la bouche de la ria et de l'autre côté, la plage Saint-Cosmé qui appartient à la municipalité de Barreiros. Et maintenant, si vous regardez vers la droite, au fond de la ria, il y a d'abord l'embouchure de la Masma. Et au pied de ce mont couvert d'arbres, la plage Fondas, qui fait partie de la municipalité de Foss. C'est là qu'accostaient les marins au long cours qui devaient observer une quarantaine à leur retour. Regardez un peu plus loin, à votre droite, là où s'achèvent les maisons de Foss. C'est la pointe Malates, où débouche l'autre rivière qui forme la ria, bien plus petite, le Centinho. Autrefois, il y avait là-bas plusieurs chantiers navals. Il n'en reste aucun aujourd'hui, mais le nom de la rue menant à cet endroit, Rua do Esteleiros, la rue des chantiers navals, nous rappelle l'importance qu'a eue à Foss la construction des bateaux en bois, et ce pendant des siècles. Il y avait là-bas trois chantiers navals, celui des frères Beltran, celui de Juan María Nécega Somoza, qui était le plus traditionnel, et celui de Moreno. C'était des chantiers de charpenterie de marine traditionnelle axés essentiellement sur la construction de canots et de bateaux en bois. On y construisait des bateaux pour toute la côte cantabrique. Les charpentiers allaient dans les forêts, choisissaient les pins et les eucalyptus avec le propriétaire du futur bateau et les ramenaient jusqu'ici. Souvent, ils devaient utiliser deux camions, car les troncs d'arbres pour la quille pouvaient atteindre les 20-22 mètres de long et n'entraient pas dans un seul véhicule. C'était tout un spectacle. Peu avant de fermer ses portes, le chantier de Nécega a mis à l'eau le plus grand bateau de pêche en bois du monde. C'était en 1989. Il mesurait 38 mètres de long et avait pour destination Orio, Guipuscoa. Sur ce, nous pouvons reprendre la visite. Nous allons nous diriger vers la gauche en suivant cette promenade qui longe le front de mer, direction la bouche de la ria. N'oubliez pas de marcher à pas lents, c'est une balade. Cette ria était riche en coques et en palourdes. Ici, on les appelle chicaros et ameixolas. Jusqu'aux années 60, il y a toujours eu beaucoup de coquillages et de crustacés. Mais avec la construction de la voie ferrée, on a canalisé la rivière et ouvert une carrière au fond et un lavoir de kaolin. La pollution de la ria a fait diminuer la production des coquillages que beaucoup de familles ramassaient pour compléter leur fin de mois. Je me rappelle encore que quand j'étais petite, je voyais les femmes d'ici, de la Ribeira, descendre à la plage Rapadoira pour ramasser des marabillas, ces palourdes allongées avec une coque verdâtre semblable à celle des couteaux. Elles pêchaient aussi des moules et des lamparos, c'est-à-dire des patelles. Avant, la ria était aussi bien plus ouverte vers la mer. Mais on a construit des jetées de part et d'autre à Foss et Barreiros. Les courants ont changé et elle s'est remplie de sable. Autrefois, il y avait plus de profondeur pour arriver au port, mais le problème venait déjà de loin. Dans les années 30, des voix déjà se levaient pour demander un port extérieur à cause des problèmes de profondeur. À l'époque, il n'a pas été construit. On a élargi le port intérieur avec des jetées, des murs et des môles, et en fin de compte, il s'est avéré inutile. Le port de Foss s'est affaibli, et d'autres, comme celui de Burela, ont pris le relais. Nous sommes toujours à la Ribeira. Ici venaient s'amuser les gamins. Faneca racontait qu'ils passaient des heures à jouer avec des bateaux qu'ils faisaient eux-mêmes avec des boîtes de conserve fabriquées dans les conserveries du village. Ils testaient leur stabilité en mettant un peu de sable à l'intérieur, et s'ils passaient le test et ne chaviraient pas, la mise à l'eau était réussie.
Paneca, veña, que vas quedar atrás. Eu vos elevo co vilar. Ti que lancha levas?
A miña é a polar. Aí vou.
Brum, 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 brum.
Aí vai un cangrexo. Vou no coller como se fose un bonito. Veña, pa dentro.
Hai que volver ao porto, que se aveciña unha galerna.
Vale, caralle.
Vale, que a ver.
Ce trottoir pavé s'arrête un peu plus loin, au pied d'un lampadaire, où nous ferons une nouvelle halte. Devant vous, vous allez voir un petit port que certains appellent maintenant Porto Chico. Tout cela, c'était la plage Toupidée. Jusqu'ici venaient les enfants avec leurs petits bateaux fabriqués avec des boîtes de conserve. Ils s'y baignaient et jouaient entre les barres de fer, les étaux et les pointes de charpenterie de marine. Parce qu'ici aussi, on construisait des bateaux. À présent, nous allons traverser l'esplanade qui s'ouvre devant nous en diagonale afin d'atteindre la partie intérieure de ce petit port qui abrite l'école de voile de Foss. À partir de là, nous emprunterons le sentier qui monte vers ces grands bâtiments au fond et qui longe la pelouse d'un jardin. C'est parti! Traverser avec prudence, au cas où il y aurait des voitures. Chemin faisant, si vous regardez légèrement à votre gauche, vous verrez un amas de pierres. Ce sont les ruines du chantier naval de Santiago Pérez Marinho, connu ici sous le nom de Santiago da Puebla, parce qu'il était originaire de Pobra do Caramiñal. À son arrivée dans le village, il a appris le métier dans le chantier naval de Nesega, et décida ensuite d'ouvrir son propre atelier de charpenterie de marine, qui fut en activité dans les années 60 et 70. Le chantier naval était sur le sable et à deux pas de la mer. La partie arrière donnait sur le Campo da Cabana. C'est par là que sortaient les premiers canots, plus ou moins petits. Ils traversaient le Campo da Cabana et on les amenait jusqu'à Ribeira. Ils étaient tirés par des vaches. On installait des pieux sur le sol pour déplacer les canots, et les vaches les traînaient. Nous approchons déjà du petit port. Vous voyez l'école de voile à gauche? C'est un bâtiment bas fait en parpaing. Il y a toujours de petits bateaux reposant sur l'herbe. Eh bien, nous allons emprunter ce sentier qui monte entre l'école de voile et la pelouse du jardin. Vous le voyez? Allons-y. Ce petit port accueille beaucoup de canots, mais leurs propriétaires les utilisent le plus souvent pour saréar. De quoi s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, le saréo, c'est naviguer sans but précis, simplement pour passer du bon temps. Vous êtes en train de parcourir le sentier, n'est-ce pas? Eh bien, un peu plus loin, il y avait une autre charpenterie de marine traditionnelle, celle de David del Riego. Encore plus à l'intérieur, sur la plage Toupidée. Le carreau, ces rails en fer sur lesquels on construisait les bateaux, entrait sur plusieurs mètres dans le sable et dans la mer. Pour la mise à l'eau, il fallait profiter de la marée haute, parce que sinon, ils pouvaient rester enlisés dans le sable, et pour les en sortir, il fallait utiliser une charrue tirée par des vaches. Ceci dit, la mise à l'eau était un événement social auquel assistaient tous les habitants de la bourgade. L'entrée dans la mer était spectaculaire. En 1970 ou 72, toutes les autorités se sont rendues à la mise à l'eau du Candelaria. L'évêque, le délégué des syndicats, la capitainerie maritime... Chaque représentant devait faire un discours et cela a pris tellement de temps qu'ils ont dû mettre à l'eau le bateau sans avoir brisé la bouteille, pour ne pas laisser filer la marée. Lorsque la construction en fer s'est imposée, ce type d'atelier de charpenterie de marine traditionnelle s'est consacré exclusivement aux commandes de petits canots et a peu à peu disparu. Le dernier a fermé ses portes dans les années 90. Vous allez tomber maintenant sur le chemin de terre qui serpente vers la droite. Vous devez l'emprunter. Ensuite, vous verrez un bateau dans le jardin. L'apercevez-vous? Avec ce type de bateau, on pêchait à la nasse, on capturait congre ou lieu noir. Ils sont plus petits que les tarafeiros qui pêchaient la sardine. Un pêcheur prénommé Abel a fait don de ce bateau lorsqu'il a pris sa retraite. Il sortait à la mer vers 7h ou 8h de l'après-midi et regagnait le port à l'aube. Les pêcheurs à la palangre rentraient vers 15h ou 16h pour ne pas manquer la roula de 17h. La roula, c'est la criée. À Foss, il y avait une vente aux enchères le matin, à midi, et une autre l'après-midi à 17h. La sonnerie de la roula marquait le début de la vente, et le premier arrivé vendait au meilleur prix. Après avoir laissé le bateau derrière nous, vous allez apercevoir sur votre droite, un peu plus bas, un monument consacré aux marins. Cependant, l'hommage le plus touchant rendu aux marins pêcheurs de Foss se trouve de l'autre côté. Arrêtez-vous un instant avant d'atteindre la fin du chemin de terre, d'accord ? Maintenant, regardez vers la gauche. Vous verrez le mur d'une rue qui monte et, en haut, entre les bâtiments, un autre mur blanc plus petit. Là-bas, dans le croisement avec la rue qui monte jusqu'à se perdre à droite, il y a un banc en bois qui regarde vers le port. On l'appelle ici le banc des mensonges. Vous le voyez ? Faneca disait que c'est là que les marins pêcheurs retraités se réunissaient et profitaient des rayons du soleil. Et les marins, quoique le seul vrai sujet qu'ils maîtrisent soit la mer, si un tout autre sujet vient sur le tapis, ils n'hésitent pas à donner leur avis et à refaire le monde. Et le temps d'une conversation, ils deviennent avocats, astronautes ou ingénieurs. Maintenant, continuons sur ce trottoir qui longe ce qui reste de la plage Toupidée. C'est parti ! Une curieuse compétition de tir à la corde est organisée ici à la fin du mois d'août. Depuis cette plage, on lance une corde de plus de 300 mètres jusqu'à la plage Saint-Cosmé, située de l'autre côté de la Ria. Au milieu est placé un canot qui contient un panier recélant le trésor que le roi irlandais Maelok a soi-disant enterré dans le bois environnant. Le gagnant est celui qui parvient à ramener le canot de son côté. Le banc de sable qui ferme la bouche de la Ria a toujours été très dangereux pour la navigation et rendait difficile l'entrée des bateaux au port. En outre, de ce côté de la Ria, là où se dresse le phare, que l'on connaît sous le nom d'Afarola, se trouvait la Pena d'Arapadoira, des rochers qui compliquaient encore plus le passage. C'est la raison pour laquelle, dans les années 30, on a rabaissé ces rochers et placé au-dessus une tour-balise. Quelques années plus tard, en 1936, la jetée qui relie la Farola à la terre ferme a été construite, afin de protéger le quartier d'Aribeira des assauts de la mer. Ainsi est-elle restée jusqu'aux années 70. De nos jours, la jetée jusqu'à la Farola est une promenade. Vous pouvez y retourner ensuite si vous souhaitez y faire un tour. Nous, nous allons continuer sur ce trottoir qui monte en tournant vers la gauche. La promenade qui va jusqu'à Afarola a été baptisée « Paseo de Laredo ». Elle fut ainsi nommée parce qu'entre les années 20 et 60 du XXe siècle, un fort lien maritime et affectif unissait cette bourgade cantabrique à Foss. Tout a commencé lorsqu'un habitant de Laredo, Luis Gutierrez, fonda à Foss une fabrique de conserves. Il encouragea ainsi certains bateaux de Laredo à se déplacer jusqu'ici pour pêcher la sardine. Mais il y en avait tellement que le prix a chuté et ces pêcheurs, qui se retrouvèrent sans ressources, furent accueillis chez les habitants de Foss qui partagèrent avec eux le peu de choses qu'ils avaient. C'est ainsi que se sont tissés les premiers liens affectifs. Puis, au temps de la Seconde République, on eut besoin d'un bateau avec une grue pour construire la digue nord du port de Laredo, et le seul qui existait était à Foss, à Chata, et il a donc navigué jusqu'à Laredo. À la fin de cette petite pente, nous tournerons à droite et emprunterons le Paseo de Colonne, d'où l'on voit toute la plage Rapadoira. Des années plus tard, les bateaux de Foss ont mis le cap sur les ports de l'est du Cantabrique pour pêcher l'anchois, et les habitants de Laredo rendirent aux marins pêcheurs de Foss leurs bienveillantes attentions. De Laredo, ils ont ramené des engins de pêche qu'il n'y avait pas ici. Après la guerre, des personnes victimes de représailles exilées de Laredo ont trouvé refuge à Foss. D'ailleurs, il existe encore la famille des Laredanos et d'autres noms de famille cantabriques comme Bustamante, Eizaguirre ou Insera. Nous sommes arrivés au Paseo de Colonne. Un peu plus loin, il y a un buste de pierre. Nous allons nous en approcher et nous y ferons une petite halte car j'ai rendez-vous avec des habitants de Foss qui en savent sûrement bien des histoires sur cette plage. Tiens, je les aperçois. Salut, nous voilà. Ça fait longtemps que vous attendez ?
Salut Rosa. Non, Ramon et moi on s'est donné rendez-vous un peu plus tôt et on est venu à pied jusqu'ici.
Salut Ramon. Eh bien, je vous donne la parole. Par quoi voulez-vous commencer ?
Moi, je vous propose de commencer par évoquer Oshiko, puisqu'on est devant le buste sculpté en son honneur.
Attends Ramon. Il faut dire d'abord qu'à Foss, on appelle ce buste Non-Oé. C'est pas lui. Parce que on a découvert la sculpture en voyant son visage, les gens ont dit « c'est pas lui ».
Bon, c'est pas très important. Faut pas s'éparpiller. Son nom complet était Lizardo Rivas Oroza, mais ici tout le monde l'appelait Oshiko.
Parce qu'il était le fils d'Ashika.
Oui, nous avons vu la statue d'Ashika qui est à Ribeira, cette femme avec une bourriche sur la tête. Vous vous en souvenez?
Oshiko a grandi à Ribeira. Il a été pêcheur et plus tard il est devenu l'un des premiers sauveteurs de Foz. Il en a sauvé des vies, parce qu'il faut dire que sur cette plage, il y a beaucoup de courant.
Avant Oshiko, il y avait eu comme souriste le vieux de Castiñeira, un vrai loup de mer qui a sillonné le globe. Tu vois de qui je veux parler?
Ah oui, Jesús Castiñeira. De retour à Foz, en 1946, on lui a confié la surveillance de la plage en qualité d'agent de l'autorité. Il travaillait tous les jours de 8h à 21h, pendant les mois d'août et de septembre pour un salaire de 12 pesettes par jour.
Je me souviens parfaitement d'Oshiko. Il arrivait toujours sur sa veste pas bleue et avait une constitution très athlétique. Il était vraiment baraqué et il imposait avec ce large torse typique des acteurs du cinéma d'aventure des années 50 et 60. On dit même qu'il a participé dans quelques films, comme doublure de Tarzan.
C'est pas Tarzan. Apparemment, on l'avait contacté pour doubler l'acteur principal d'un film qui était tourné dans la région de la Marinha en 1963. C'était pour une scène périlleuse à Estaca de Bares, dans laquelle il devait sauter dans la mer de très haut.
Ce qui est incontestable, c'est qu'Oshiko est une figure indissociable de la plage Rapadoira.
Cette plage lui doit beaucoup, car dans les autres plages des environs à l'époque, il n'y avait pas de mesures de sauvetage et de sécurité. Il est mort en 1993, et son cercueil a été recouvert du premier pavillon bleu de Rapadoira.
Oshiko était vraiment une légende vivante de Rapadoira. Maintenant, nous allons nous déplacer jusqu'à la rambarde de cette promenade qui donne sur la plage, après avoir laissé derrière nous les arbres et les bancs en pierre. Eh bien, c'est parti. Cet endroit nous offre une vue panoramique sur toute la zone de Rapadoira. Je me souviens encore quand la mer arrivait jusqu'ici, près de la promenade.
Bien sûr, avec l'extension du mur de la jetée qui sépare la plage de la bouche de la Ria, ça s'est progressivement rempli de sable. Mais ça a toujours été une plage naturelle. La promenade, par exemple, était autrefois un champ verdoyant. Lorsque j'étais enfant, nous descendions à la plage par des sentiers frayés par ici.
Il y avait aussi des cabines en bas plus bas sur le sable, non?
C'était de petites cabines utilisées par certains vacanciers pour garder leurs affaires de plage et leurs effets personnels. Aucun habitant du village n'avait de cabine, ou bien peut-être les plus riches d'entre eux.
Ou ceux qui se prenaient pour des riches?
C'est pas faux. Eh bien, regardez à gauche, à partir d'ici s'étend un autre quartier appelé Isla Nova, île nouvelle. Autrefois, on le connaissait sous le nom d'Isla Perdida, île perdue, parce qu'il n'y avait rien, pas même des maisons. Juste quelques petites cabanes. Un jour, un bar y a ouvert ses portes. Le propriétaire était d'ailleurs le père d'un de nos maires. Il ne savait pas quel nom lui donner parce que tout le monde disait « Sur l'île perdue, sur l'île perdue ». Alors, le maire qu'il y avait à l'époque lui a dit « Appelle-le île nouvelle » et ce nom lui est resté. Avec le temps, le quartier s'est progressivement développé.
Tiens, je ne connaissais pas cette version, moi. J'avais entendu une toute autre histoire qui a pour personnage principal le père de Sheila. Un marin pêcheur très connu de par chez nous. Il avait une maison par ici. Lorsqu'il prenait un verre de vin, il disait toujours « Je m'en vais, je m'en vais !»« Mais où tu vas, mon vieux? Prends un autre verre !»« Non, je m'en vais à mon île !» Et c'est à partir de là qu'on l'aurait appelé île.
C'était Isla Perdida, île perdue. Mais pour gommer cette image d'être loin de tout, on l'a rebaptisée île nouvelle. Et maintenant, il y a là-bas un hôtel qui porte ce nom. Ça s'appelle Isla Nova.
Bon, pour être plus clair, le quartier d'Isla, ou Isla Nova, s'étale jusqu'à ce bâtiment rouge. Ensuite commence Rego de Foz. Là-bas débouchait un petit ruisseau, il y avait aussi un port baleinier jusqu'au XVIIe siècle, qui se prolongeait là où se trouve ce champ vert en face, qui est maintenant le Prado de Ramos. C'est en 1908 qu'on y a dépecé la dernière baleine. Elle avait été retrouvée morte sur la plage, car ici, on ne tue pas les baleines.
Le cours d'eau n'existe plus. Il a été canalisé. Le ruisseau recueillait l'eau de tous les prés environnants et se jetait dans la plage. D'ailleurs, cette zone là-haut est encore connue sous le nom de Aslagoas, qui signifie les étangs, les lagunes.
Comme je vous le disais, tout cet endroit que l'on voit au fond était le Prado de Ramos. Mais les plus jeunes le connaissaient aujourd'hui sous le nom de Curva dos Negros, virage des Noirs, parce que deux voitures de Cap-Verdiens ont quitté la route et sont tombées en contrebas. Au lieu de prendre le virage, ils ont continué tout droit. Si aujourd'hui on leur parle du plat de Ramos, ils ne sauront pas vous dire où c'est.
On la connaît également sous le nom d'Asualta. Et là-bas, il y a des îlots appelés Os Castelos. Le nom Prado de Ramos apparaît déjà au XVIIe siècle, mais nous ne savons pas d'où il vient. Dans cette zone, certains jours, les gens qui venaient à la plage sortaient une nappe et mangeaient par là.
Comme lors de la fête de San Bartolo, qui est une chapelle qui se trouve à Barreiros et qui se célébrait beaucoup à Foz. Je me souviens de venir manger enfant avec toute ma famille ici, au Prado de Ramos.
Il y a bien des histoires liées à Rapadoira. Mais nous allons devoir continuer la visite pour être sûr de pouvoir finir notre promenade. Il nous reste encore du chemin à faire. Venez avec nous si vous voulez.
D'accord, on vous accompagne. Moi, vous savez, je n'ai pas grand-chose à faire.
D'accord, c'est parti. J'espère qu'on ne vous ennuiera pas avec toutes nos histoires.
Oh non, pas du tout. C'est un privilège de vous écouter. Maintenant, nous allons revenir sur nos pas. Nous devons passer à nouveau devant le buste d'Oshiko et traverser le passage piéton qui est en face. Ensuite, nous allons prendre à gauche et emprunter la rue Trapadero Pardo, direction le centre du village. Là-bas, de l'autre côté du passage piéton, jouxtant cette place entourée de bâtiments, se trouvait la fabrique de conserve d'Alo, pas vrai ?
Oui, elle était là. Et un peu plus loin, il y avait aussi la conserverie Ojo de Mar, même si la plus grande était celle de Damián López d'Alo. Il avait deux bateaux de cabotage et trois bateaux de pêche, et il possédait également une scierie à Villaronte, aux abords de Foz, qui vendait du bois. D'Alo était une sorte de grande holding locale, qui fut en activité entre 1930 et 1965 environ.
Dans les années 40, il y avait même une cantine, des logements et une clinique pour les employés dans les installations de Villaronte.
Aujourd'hui, la seule trace qu'il reste par ici de la conserverie, c'est un bar qui porte le nom de Damián. Casa Damián.
L'industrie des conserves alimentaires fut très importante à Foz, et ce pendant longtemps. Au milieu du XVIe siècle, il y avait déjà au moins une fabrique de salaison. Au début du XXe siècle, il y avait les fabriques de Salvaterra, de Silva Rey, et des années plus tard, celles de Don Luis Gutiérrez, Conservas Dalo, Galván, Juan Incarrigal, Jamucho et San Juan, en plus d'Hoyo de Mar.
Écoutez, nous allons traverser le passage piéton et continuer tout droit sur cette rue. D'accord ?
Rosa, et nous, on continue à parler ou on attend ?
Non, non, on continue et pas de problème. Comme ça, moi aussi j'en apprends un peu plus sur Foz.
Eh bien, je reviens au sujet des conserves. Dans les fabriques, il y avait beaucoup de main-d'œuvre féminine. Le rôle des femmes dans toute la région de la Mariña fut essentiel. Elles étaient chargées de gérer et d'organiser leur foyer, de prendre soin des enfants et des personnes âgées, de cultiver le potager. Et en plus de tout cela, elles vendaient le poisson ou travaillaient à la conserverie. Ici, au XVIIIe siècle, tout le monde était marin-pêcheur. Alors, tout le monde appartenait à la marine et chaque fois qu'il y avait une guerre, et il y en a eu beaucoup, on enrôlait les hommes âgés de 18 ans à 65 ans. Une guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finit. Vous pouviez mourir, comme dans bien des cas, ou vous en sortir vivant. Indépendamment de cela, il fallait attendre longtemps avant d'être payé. Et pendant ce temps, ce sont les femmes qui se chargeaient de maintenir les enfants et la maison. Le rôle des femmes ici, comme dans toutes les zones côtières à vrai dire, fut fondamental.
Ici, il y avait la corporation de la marine. Vous pouviez vous enrôler dans les bateaux, et ceux qui n'y étaient pas ne pouvaient pas naviguer. Bien sûr, chaque fois qu'une guerre éclatait, un tiers de la population disparaissait. Qu'est-ce qui se passait ? Ceux qui n'étaient pas de la marine, les terrestres, occupaient leur poste et naviguaient par ici, tout près dans les environs. Et lorsque les autres revenaient, ils devaient s'en aller.
Excusez-moi de vous interrompre. Nous sommes en train d'arriver à un autre passage piéton. Nous allons traverser et continuer tout droit sur ce trottoir. D'ailleurs, en traversant, si vous regardez vers la droite, au fond de la rue, vous verrez les Casas Baratas, les maisons bon marché. C'est un quartier de pêcheurs construit dans les années 50. Où était-ce avant ?
En 1944-45, ils ont reçu une subvention pour exécuter la première phase des Casas Baratas. Mais ça a pris plusieurs années. Il a fallu attendre les années 50 pour qu'ils s'en chargent. Les familles des marins-pêcheurs sont venues habiter ce quartier.
Avec ces nouveaux logements, la vie a commencé à être un peu plus digne. Parce qu'avant, les maisons n'avaient même pas de toilettes.
Ensuite est arrivée la deuxième phase, avec cette fois la construction d'appartements. Les maisons bon marché sont aujourd'hui des jolis pavillons, parce qu'elles sont dotées d'un peu de terrain ou d'un jardin.
nous allons atteindre Campo da Cabana. C'est l'immense place devant nous. Mais d'abord, nous devons traverser ce passage piéton, avec prudence. En arrivant à l'angle, nous allons traverser à gauche cet autre passage piéton. Et ensuite, nous allons continuer tout droit sur le trottoir pour parcourir tout le long de la place. D'après ce que j'ai compris, cet endroit est important dans la vie de Foss.
Oui, il y a beaucoup à en dire. C'est moi qui commence ?
Vas-y, toi qui es féru d'histoire ancienne.
D'accord, je me lance. Ce terrain appartenait à la famille Revezon, une puissante famille originaire du quartier de Marzan. J'ai cru comprendre qu'ils voulaient construire une chapelle et comme l'église leur demanda quelque chose en échange, ils firent don de ce terrain à la fin du XVIe siècle. À l'époque, le Campo da Cabana s'étalait du port jusqu'à Rapadoira. Lorsque les Basques sont arrivés avec la chasse à la baleine, ils se sont installés tout d'abord dans cette zone. Le nom Campo da Cabana peut faire référence à une cabane qu'ils avaient là où ils gardaient les engins pour dépecer les baleines. Ensuite, ils sont partis à Rego de Foz, où un port privé consacré à la pêche à la baleine avait été construit.
En fait, cela commence comme un prêt dont on a fait don à l'église. Celle-ci ensuite a fait un échange avec la corporation des marins pêcheurs pour qu'ils puissent y étendre et faire sécher leurs filets. À l'époque, il n'y avait aucune construction. Le village s'est agrandi plus tard, de la Ribeira jusqu'ici, et au milieu du 19e siècle, cette zone était connue sous le nom de Casas Novas, maison nouvelle. Les bateaux de cabotage accostaient là, et pour décharger et sortir les marchandises, il a fallu aménager un chemin sur toute la montée, pour relier l'endroit à la route allant de Ribadeo à Viveiro.
Une fois arrivés au bout de la place, qu'allons-nous faire ? On continue tout droit en empruntant la rue Adomar ?
Je crois qu'il vaudrait mieux aller vers la gauche et emprunter la rue Jesús Nazareno.
C'est d'accord. Alors, là où se trouve le bar Chicaro, on tourne à gauche.
J'aimerais bien savoir ce que vous fabriquez.
Bah, qu'est-ce qu'on fait à ton avis ?
Comment je pourrais le savoir ? Je suis sur les pas de ma porte.
Tu es à moitié campuda.
À moitié non, 100% campuda.
Eh, il faudrait peut-être expliquer ce que ça veut dire, campuda.
En fait, les personnes qui vivent ici ont un sens de l'humour un peu particulier et on les qualifie de campudas. Pas vrai ? Allez, viens, fais un bout de chemin avec nous.
Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Il y en a même qui disent qu'on est mal élevé. Mais bon, on est des filles de marrons, quoi. On dit ce qu'on a à dire et on se fout de savoir qui nous écoute. On a peut-être des toupées, mais on n'est pas non plus mauvaises.
Et elles ne sont jamais à l'égalité. Ou elles perdent, ou elles gagnent.
Maintenant, pour emprunter la rue à Jesús Nazareno, à l'angle, on tourne à droite. Elle s'appelle ainsi en souvenir de la plus grande tragédie qu'ait connue Foss.
Regardez. Dans ces petites terrains vagues, il y avait le gaillard en bois d'un chantier naval. On venait ici enfant et on montait sur le gaillard qui était immense, plus haut que les maisons d'à côté. En haut, on faisait le tour de la dernière planche et on se balançait, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Je l'ai fait plein de fois.
J'allais reprendre l'histoire de Jesús Nazareno, mais nous sommes en train d'arriver à la maison de José de Socorro, celui-là même qui a imaginé le personnage de Faneca. C'est la maison de droite, avec des escaliers d'un côté et un balcon au premier étage. Nous allons faire une halte ici, un instant seulement. José Fernández Rocco, connu sous le nom de José de Socorro, fut rouleiro. Il travaillait dans la criée et poète populaire. C'était un homme simple, né au sein d'une famille de marins-pêcheurs. Il n'avait pas d'études, mais il aimait écrire. Ainsi décrivait Faneca le métier des marins-pêcheurs. Le pêcheur travaille, de nuit au clair de lune, il travaille quand il gèle, quand il fait soleil ou nuit noire. Lorsque mugit le nord-ouest, lorsque la mer bat la côte, travaille le pêcheur avec ses vêtements imperméables. Il a pour toile les étoiles, pour plancher la douce mer, et par des voies dangereuses, il doit continuer à voguer.
Arenena, 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 arenena. estrellado a estrelas, por piso tengo mar blando. Es por vieiros peligrosos, ten que seguir navegando.
On peut maintenant reprendre l'histoire de Jesús Nazareno.
D'accord, je m'en charge. Le 18 juillet 1945, un bateau de pêche a fait naufrage faisant 12 morts, dont 5 de la même famille. En souvenir de ce jour funeste, cette rue Jesús Nazareno porte aujourd'hui le nom du bateau. Beaucoup de membres de l'équipage vivaient ici.
Cette tragédie a bouleversé tout le village.
C'est bien vrai, j'en ai beaucoup entendu parler. À présent, nous allons continuer la visite, à Palan. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une promenade.
On raconte que le jour de la procession du Carmen, le 16 juillet, l'équipage du bateau a demandé la permission au curé de porter en procession le Nazaréen en plus de la Vierge. Pieds nus, ils sollicitèrent des campagnes de pêche fructueuses. Comme cette année-là, le Carmen est tombé en lundi. Ils ont préféré prendre la mer le mercredi 18 en raison du refrain espagnol qui recommande de ne rien faire de dangereux en mardi. Le mardi, ne te marie pas et ne t'embarque pas. Et ce jour-là, une tempête s'est levée et le bateau a fait naufrage.
En voyant arriver la tempête, les marins ont enclenché le moteur et la voile pour arriver plus vite au port. Mais le bateau avait pris tant d'élan que les vagues l'ont soulevé et l'ont fait sombrer. Ce fut une vraie leçon pour les marins de Foz. Et lors d'une autre tempête très violente, en 1961, ils ont laissé le bateau à la dérive et le moteur au ralenti pour que l'embarcation ne chavire pas. Et ils sont arrivés à port sains et saufs.
Sur la façade de la dernière maison de cette rue, il y a une plaque commémorative. Et en arrivant au croisement, là en bas, où se trouve la place Mondoñedo, nous n'allons pas prendre à gauche la rue qui descend, ni à droite la rue qui monte, nous allons continuer sur la rue qui continue tout droit, qui est la Rua Constitución. Entendu ? La procession du Carmen descendait depuis les Casas Baratas par la Rua do Mar. Et une fois arrivée à ce croisement, elle s'arrêtait devant la confrérie des pêcheurs, qui était au bout de la rue, la deuxième maison à gauche. Ici s'arrêtait donc la procession et on chantait le Salvé. Cette rue fait également partie de ces rues qui sont tapissées le jour du Carmen, pas vrai ?
Alors, à propos des tapisseries, il faut préciser qu'on les a faites depuis toujours. Mais depuis 1981... on les fait avec plus de rigueur, pour ainsi dire.
Le tapisserie suscite beaucoup de rivalités entre les quartiers. Depuis quelques années, les vacanciers peuvent aussi y participer.
Justement, on n'a pas encore parlé des vacanciers. Et Foz est un lieu de villégiature depuis toujours. Je vous ai dit que dans ma famille, c'est déjà la troisième génération qui passe ses étés à Foz.
C'est assez curieux ce qui se passe ici. Comme autrefois, il n'y avait pas d'hôtel, les vacanciers logeaient chez les habitants.
Chez moi, par exemple, il y avait le rez-de-chaussée, où on habitait pendant l'été, le deux étages supérieurs étaient loués en juillet et en août. Et ensuite, pendant la première quinzaine de septembre, arrivaient les dits Carolos et Carolas. On surnommait ainsi les gens de l'intérieur, de Mondoñedo, Abadín et Alentour, qui venaient en basse saison parce que c'était moins cher.
Ces gens-là venaient pour faire une cure de 7 bains consécutifs sur prescription médicale. Chaque jour, un bain de mer, parce que les eaux de Rapadoira ont des vertus curatives en raison de l'iode contre le goitre. Après des moissons, ces gens de la campagne avaient moins de travail et en profitaient pour venir ici 10 ou 12 jours. Ça dépendait, mais toujours au mois de septembre.
Ils apportaient leur propre nourriture. Les enfants n'avaient même pas de maillot de bain. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des choses à faire. Abur.
Merci, au revoir. Et nous, nous allons nous arrêter un instant pour nous situer avant de continuer. Là-bas, au fond, vous devez voir les palmiers et les arbres de la place Condé de Fontao. Eh bien, c'est là que nous nous dirigeons à présent. Traversons le passage piéton qu'il y a au bout de la rue et continuons à descendre sur le trottoir droit jusqu'à atteindre la place. Nous ferons là-bas une autre halte, à côté de l'aire de jeu, d'accord ? Comme ça, on a le temps d'écouter comment Faneca décrivait les Carolas. Allez, c'est parti.
Tres ou catro nunha cama durmían na habitación e o xergón era de tabua e de folla.
À trois ou quatre dans un lit, elle dormait dans la chambre. La paillasse était une planche et le matelas était rempli de feuilles. Si elle ne trouvait pas de lit, elle ne partait pas sans leur bain. Elle dormait comme elle le pouvait, ensemble dans le grenier. La patronne ne se rendait pas compte de faire payer ses gens parce qu'elle lui donnait en hiver des patates pour la semence. Elles apportaient un sac au poignet avec des patates, du pain et du lard, un faitout de Saint-Doux et un bidon de vin.
Porque lle daban no inverno pataca para semente. Traguían un saco puño con patacas, pan e touciño. Unha cazola de pingo e un garrafón de viño.
Vous êtes à présent sur la place, je suppose. N'oubliez pas de vous positionner à côté de la clôture de l'aire de jeu.
Voici la place Conde de Fontao. Mais ici, on l'appelle toujours la Rambla. D'où vient ce nom, on n'en sait rien.
Mais avant, il convient de s'arrêter pour contempler ce bâtiment nouveau que nous avons laissé au pied du passage piéton.
Bon, eh bien, on localise le bâtiment, qui est le dernier de la rue par laquelle nous sommes descendus. Il a une façade avec un balcon vitré qui donne sur cette place.
Voilà le centre social des marins-pêcheurs. À l'origine, la corporation des pêcheurs avait là un local qu'ils utilisaient pour garder leurs filets et parler de leurs problèmes. C'était une petite maison basse. Ensuite, le club nautique a été construit ici et en 1921, les locaux du rez-de-chaussée ont abrité le premier cinéma. Le bâtiment d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le bâtiment d'autrefois, mais il a gardé la même utilité.
Très bien, continuons la visite. En passant par l'aire de jeu, tournez à gauche et continuez au milieu de cette allée boisée qui est la Rambla, comme l'a dit Ramon.
Tout ce jardin a été gagné à la mer. Avant, c'était du sable. Ça s'appelait Avignia. Les bateaux venaient ici et accostaient sur le sable. Le Camino Real, chemin royal, longeait le mur de l'église. En 1853, il a fallu organiser un nouveau chemin en haut parce que les diligences qui transportaient les passagers devaient parfois rester là à attendre que la marée baisse. La marée haute inondait le chemin. Et pour que les bateaux ne s'enlisent pas dans le sable, il a fallu creuser un grand trou, de manière à ce qu'il y ait toujours assez de profondeur.
En 1926, Foz fut déclaré port d'abri, et par conséquent, il avait droit aux infrastructures portuaires. La première chose qui a été exécutée, c'est le remblai de toute cette zone, parce que c'était un étang d'eau stagnante. Ce fut la première grande transformation du port. Ici a été fait le premier quai d'accostage. Il y avait là des bateaux de cabotage et des bateaux de pêche. Et c'est ici que chaque armateur de bateaux de cabotage avait son espace pour déposer le bois et le chargement.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'ici.
Pas de quoi, Rosa.
Mais ce fut un plaisir.
Je propose d'achever la visite, là, à droite, devant le mur de l'église Santiago de Foz, où il y a une exposition permanente de photographies d'antan de la bourgade. Si vous les regardez avec attention, vous pourrez mettre en image nombre des histoires que vous avez écoutées au cours de cette promenade.
N'oubliez pas de déposer les casques là où vous les avez pris. Les personnages de cet audio guide ont été interprétés par ordre d'intervention par Martin Castro, Manuel Cortés, Aurélie Garrigue, Olivier Cano, Álvaro Trillo, Chris Iglesias. Les chansons ont été composées à partir des poèmes des livres de Faneca de José Socorro chantés par Filas Bravas. L'édition et post-production du son étaient à la charge de Jacob et Martínez Antelo et la documentation, le script et la direction sont signés Jesús Rom. Cette œuvre n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de Juan Ramón Fernández Pacios, Anton Niñe et le personnel de la mairie de Foz.